Retour dans la nuit pour la chose commune. La semaine dernière, avec nos invités, nous avons parcouru un état des lieux alarmant sur la pollution engendrée par l'activité humaine et l'éclairage public en particulier. Mais comme on n'est pas défaitiste dans cette émission, on revient pour une nouvelle demi-heure pour agir. Alors on a fini l'émission dernière en parlant réglementation et notamment son application sur le territoire de Blois et de l'agglomération. Est-ce qu'on peut rapidement rappeler la réglementation actuelle sur l'éclairage public, notamment en lien avec cet arrêté ministériel de 2018 ? Qu'est-ce que doivent faire les communes actuellement pour respecter cet arrêté ministériel ?
Alors, les communes doivent éteindre complètement, aussi au maximum, autant que faire se peut, leur éclairage public. Il faut que cet éclairage soit uniquement dirigé vers le bas. Et ça, c'est une notion qui n'est pas toujours facile à comprendre, parce que les gens se disent « Oh oui, il voit le lampadaire, il est à peu près incliné vers le bas. » Mais si jamais il est un tout petit peu incliné et qu'il est au-dessus de l'horizontale, eh bien, il y a une partie de la lumière qui va partir vers le ciel.
D'accord.
Oui. Pour l'arrêté ministériel, il va plus loin. Pour les commerçants, il impose une extinction des bureaux, des vitrines, des façades entre 1h et 6h du matin au minimum et 1h après l'arrêt de l'activité. Et il impose de rallumer pas avant 1h avant l'ouverture.
D'accord. Alors cet arrêté ministériel date de 2018, il est encore relativement récent. Est-ce que malgré tout, on voit quand même sa mise en application, est-ce qu'elle commence à se déployer ou est-ce que c'est encore difficile ?
Oui, alors, par exemple, pour la ville de Blois, rappelons que la ville de Blois procède à une extinction en milieu de nuit d'un tiers de son éclairage public. Alors, on espère que ça va augmenter, on espère que ça va s'améliorer, mais c'est déjà pas mal pour une première expérience. Et ça montre que finalement, c'est relativement bien accepté par la population.
D'accord. Est-ce que, alors hormis Blois, parce que c'est vrai que Blois focalise beaucoup l'attention, étant donné que c'est la ville centre et notamment pour nos auditeurs qui sont beaucoup, ou qui travaillent ou qui vivent sur cette ville-là, mais est-ce qu'on va dire qu'à plus large échelle, dans l'agglomération, même dans le département, la prise de conscience des politiques et la mise en application de la loi, est-ce qu'elle se fait ?
Voilà. Oui, absolument, parce que il me semble qu'il y a autour des deux tiers des communes du département qui éteignent l'éclairage public, partiellement ou totalement. Et on sent que ça progresse nettement quand on discute avec les maires et les conseillers municipaux. Ils sont tous d'accord pour faire des extinctions en milieu de nuit.
D'accord. Voilà, on parle de la législation et de son application, mais est-ce que, si on va aller plus loin, est-ce que, à votre avis, cette législation elle est totalement adaptée, en tout cas à la réduction de la pollution lumineuse, et est-ce qu'il ne faudrait pas en faire plus ?
Non, je ne crois pas que c'est la peine d'en faire plus. Comme on dit, trop de textes tuent les textes, comme tout ce qui est excessif, ça devient insignifiant. Je crois que les textes qui sont actuellement sont de bonne qualité, ils sont parfaitement adaptés à la situation et permettent une réduction nette de la pollution lumineuse. Après, c'est une question de prise de conscience, puisqu'il faut quand même rappeler que le maire d'une commune est libre d'éclairer ou de ne pas éclairer. L'éclairage public n'est pas obligatoire dans une commune. Ça, c'est très important à comprendre. Et c'est un mouvement qui ne s'arrête pas, qui continue de progresser, parce que les maires, les gens, les élus et le public comprend que c'est aussi des économies de budget, des économies sur les impôts.
Oui.
Moi, je suis assez d'accord. Une fois que la loi elle sera appliquée, on pourra commencer à voir les effets et réfléchir à cette question-là et on pourra déjà voir ce que ça donne. Mais déjà, dans un premier temps, appliquer la loi qui a été réfléchie pour ça.
D'accord. En effet, ça paraît, en effet, à mon avis, une bonne chose. Malgré tout, l'éclairage public, c'est quand même un enjeu politique au niveau local et on l'a vu là au moment des élections municipales. Quels sont les arguments justement qui pourraient ralentir la mise en application de cette législation, ou en tout cas, quels arguments les citoyens pourraient faire valoir auprès de leurs élus, justement pour essayer de freiner ce mouvement ?
C'est très simple. C'est premièrement le côté sécurité. Les gens ont peur. Quand il n'y a pas de lumière, c'est un réflexe parce qu'on a habitué la population à avoir de la lumière partout, tout le temps, toute la nuit. Donc les gens ont un réflexe de peur, de densément d'insécurité. Donc c'est un sentiment d'insécurité, mais on sait très bien que d'après les rapports de police et de gendarmerie, il y a plutôt une diminution des incivilités quand une rue n'est plus éclairée, quand un endroit n'est plus éclairé. Deuxième chose, c'est l'aspect pratique pour les gens qui se lèvent tôt, pour leur activité professionnelle. Et ça, alors, il faut éclairer, oui, certainement, c'est sûr et certain. Mais nous, à NPSN, on ne dit pas qu'il ne faut pas éclairer du tout. On dit qu'il faut éclairer mieux et juste ce dont on a besoin. Voilà. Donc avec ça, on peut très bien éclairer même en milieu de la nuit. Mais si on a des systèmes d'éclairage qui sont efficaces, qui ne polluent pas, et il en existe, ou alors des zones qui s'allument avec un détecteur de présence, donc qui s'allument au moment où quelqu'un va passer, à pied ou en vélo, par exemple, eh bien, c'est des choses qui sont tout à fait possibles.
Ça, c'est des choses c'est des solutions qui existent déjà
Alors, ça existe déjà dans certaines villes, où là, il faut qu'il y ait d'éclairage quand les gens se déplacent. La question est de savoir, ça permet de ne pas tout éclairer, et d'éclairer juste ce qu'il faut au moment où les gens passent. Alors pour nous, un exemple, très bon exemple dans la région, c'est un petit peu à côté de la région, c'est dans le Maine-et-Loire, à Saumur, la ville de Saumur, pratique une extinction quasiment totale, sauf l'hypercentre, et avec des endroits justement, avec des rues où il y a des détecteurs de présence, où on peut s'aventurer et les lampadaires s'allument au fur et à mesure que l'on avance.
D'accord. On l'a évoqué rapidement, mais l'argument économique, c'est quand même un argument de poids. Parce que là encore, moi, j'imagine un petit peu tout ce qu'on peut faire valoir auprès des pouvoirs publics afin de faire avancer les choses. L'argument économique est, à mon avis, un des arguments, même si ce n'est pas forcément le premier que personnellement, je citerais. Hein, l'objectif, c'est quand même d'améliorer la qualité de notre environnement. Si ça a un impact économique, bah, on va dire que c'est tant mieux. Est-ce qu'on peut chiffrer, dans quelle proportion une municipalité peut faire des économies par la réduction, sans forcément donner de chiffres parce que c'est trop compliqué.
Non, mais... je vais pas donner un chiffre, mais cette question est tout à fait pertinente. Pour une commune qui ne pratique que pas d'extinction, une commune vraiment qui est, j'allais dire, à l'état brut, qui procède à aucune extinction, en faisant une extinction en milieu de nuit, en améliorant la qualité de l'éclairage, baisse des puissances, faisceau lumineux mieux dirigé, eh bien, on dit qu'on peut économiser jusqu'à 50% du budget électricité. C'est énorme. L'éclairage public, c'est un des premiers postes de dépenses électriques d'une commune. Donc là, c'est un argument très important et que les gens comprennent très bien.
Oui, parce que du coup, c'est des impôts locaux, en moins en tout cas, à régler. D'accord. Alors, je pense que j'ai déjà la réponse à mes questions, mais je voudrais quand même qu'on aille sur ce terrain-là. Vous travaillez, vous, avec les pouvoirs publics, en tout cas avec les municipalités. Comment vous travaillez avec elles ?
Alors, oui, notre action, c'est uniquement de la sensibilisation. C'est de contacter les communes ou répondre à leurs questionnements parce que nous sommes des correspondants bénévoles, nous sommes notés sur le site internet de l'association. Et les communes peuvent nous contacter pour nous demander des précisions, pour nous demander des renseignements, des précisions, des conseils, voire participer au concours Ville et Village étoilés, ou éventuellement aussi signer une charte d'engagement auprès de la NPCEN. Donc nous n'avons aucune force d'obligation, c'est uniquement de la sensibilisation et du bon vouloir des élus et des communes.
D'accord. Alors, sur la question de l'éclairage public, je pense qu'on a bien avancé sur les choses. Il y a un autre sujet qui vous a réuni, vous, les deux, Extinction Rébellion Blois et la NPCEN 41, c'est la question de l'éclairage nocturne des commerces. Vous avez mené récemment une action auprès des commerçants blaisois du centre-ville. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous le présenter ?
Oui, alors nous, on a Extinction Rebellion, c'est un mouvement qui est assez jeune à Blois. Ça fait moins de 6 mois qu'on a commencé à réfléchir. On a commencé à rencontrer la NPCEN suite à une réunion du CAC 41. C'est, peut-être qu'ils sont déjà venus sur le plateau.
Oui, en effet, on les a reçus. Ouais.
C'est un mouvement qui invite plusieurs mouvements autour des... tous les gens qui réfléchissent autour de l'écologie, comme les Coquelicots, par exemple, comme nos deux associations. Donc on s'est rencontrés à la suite d'une réunion du CAC 41. On a commencé à réfléchir ensemble autour de la question de la pollution lumineuse. Nous, on n'était pas des spécialistes et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de la NPCEN qui connaissait les lois, qui avait déjà une action sur les élus, sur les municipalités. Et de là, on a commencé à établir un plan d'action pour agir sur les commerçants.
Et justement, Extinction Rebellion, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette question de la pollution lumineuse ? Je ne crois pas avoir posé cette question. Pourquoi la pollution lumineuse, vous êtes emparé de ce sujet ?
C'est un sujet qui nous posait question, quoi. On se posait déjà la question de certaines actions et celle-là, elle est venue assez rapidement dans nos débats, quoi. Et c'est en rencontrant la NPCEN qu'on s'est dit qu'on avait un pouvoir sur cette question-là. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'entrer en action. Alors, il y a plusieurs volets. Le premier, c'était d'abord d'aller rencontrer les commerçants. Donc, on a passé un communiqué de presse via le journal local pour pouvoir déjà annoncer notre action. On est ensuite allé voir les commerçants à plusieurs, tous les commerçants du centre-ville qui étaient allumés la nuit. Après un premier repérage des commerçants qui étaient allumés, on est allé les voir 2 jours pour pouvoir leur expliquer ce que c'était la loi, savoir s'ils étaient au courant déjà de cette loi, savoir si elle existait, d'essayer de connaître les raisons de pourquoi ils éclairaient, pourquoi ils n'éteignaient pas, de leur présenter des solutions très simples et très peu coûteuses parce qu'il y en a. Voilà, ça c'était notre première action.
Juste, tu as parlé du repérage, ça veut dire que vous avez fait cet effort-là d'aller en ville, en centre-ville,
de nuit
donc après les horaires d'extinction obligatoire, c'est ça ?
Tout à fait.
Exactement.
Hein ? Puisque du coup, il ne suffit pas d'y aller à 20h, il faut y aller aux heures où ils sont légalement tenus d'éteindre la lumière.
C'est ça, il faut y aller entre 1h et 6h,
d'accord.
Selon ce que dit la loi nationale.
Et donc, du coup, ce constat-là, là, ce premier état des lieux, vous êtes aperçu, en tout cas en ville, où il y a l'éclairage public en plus, hein, est-ce que vous êtes aperçu que les commerçants, majoritairement, ils étaient plutôt respectueux ou pas ?
Les commerçants, ils sont plutôt éteints. Il y en a 43 qui restent allumés, 43 qui restent allumés en centre-ville. Et après, on a bien noté si c'était la façade, la vitrine, les bureaux, les enseignes.
D'accord. Donc, dans une grande majorité, on va dire que en centre-ville, les commerçants sont conscients de cette question, en fait.
C'est vrai.
En tout cas, de la législation. D'accord. Et donc, du coup, vous avez été rencontrer les commerçants qui n'éteignaient pas ?
Oui, on allait rencontrer les commerçants qui n'éteignaient pas pour avoir leur retour sur est-ce qu'ils connaissaient la loi, est-ce qu'ils avaient envisagé d'éteindre, leur présenter des solutions les plus simples. Ça, c'était notre première action.
Justement, on peut peut-être s'y attarder, c'est intéressant. Majoritairement, les arguments pour les commerçants qui n'éteignent pas, qu'est-ce qu'ils vous disaient en fait ? Pourquoi et comment ils justifiaient ça ?
Alors oui, c'est intéressant. La plupart du temps, d'abord, ils ne savaient pas toujours que leur vitrine restait allumée, parce qu'ils ne sont pas là la nuit, donc c'était des minuteries, et ils s'apercevaient tout simplement que leur minuterie était déréglée, tout bêtement. La législation... Je ne la connaissais peut-être pas vraiment, mais il savait qu'il fallait éteindre de toute façon. Ça, c'est un truc connu. Donc, il y a eu beaucoup de bonnes réceptions du message, avec quelquefois d'étonnement, mais d'étonnement qui avait l'air tout à fait honnête, sincère, merci. Et ils nous ont répondu, oui, mais bien sûr, on est tout à fait d'accord, on va s'occuper de ça. Donc, il y aura une action de contrôle dans quelques mois, hein, je crois. Il va y avoir une action de contrôle pour savoir si l'extinction des vitrines est vraiment réalisée. Je crois que parmi tous les groupes des gens visités, il y en a un seul, tu peux peut-être en parler, Benjamin.
Bah, je vais pas le dénoncer.
Il y a un seul qui l'a mal vécu.
Ouais, en sachant que si, bientôt, il sera tout seul allumé en ville, on le verra de toute façon. Voilà. Hein, donc,
il y a eu des bons retours. Les autres retours qu'il y avait, c'était sur les économies d'énergie que ça pouvait leur apporter et l'économie de budget. Et là, c'était on avait tout de suite un public captif. Il y a juste un commerce qui lui est resté allumé parce qu'il pensait que le fait de rester allumé, ça allait lui attirer de nouveaux clients.
D'accord. Oui. Alors que c'est en gros, enfin, moi j'aurais pensé que c'était un argument qui aurait pu revenir plus souvent, quoi.
Non, pas du tout.
Ouais. Justement, oui, c'était étonnant.
D'accord. Donc du coup, vous avez prévu de poursuivre cette action par rapport à cette voilà cette question des commerçants.
Ouais. Alors il y avait un deuxième volet qui était avant de reparler des commerçants, qui était d'aller vers les élus.
D'accord.
Et de leur demander leur positionnement. Pas les élus, pardon. Les candidats. Les,
d'accord.
Les candidats à l'élection municipale. Et c'était déjà de savoir c'était quoi, de connaître leur position, leur positionnement sur cette question et de savoir ce qu'ils allaient faire s'ils étaient élus.
D'accord. Ça, alors, les élections sont terminées maintenant, on connaît le nouveau maire. Voilà. Quels ont été les retours des candidats justement sur cette question ?
Eh ben, il y avait des positionnements qui étaient différents en fonction des familles politiques. On a fait un questionnaire très précis avec 17 questions, il me semble, sur l'extinction des vitrines, des commerces, sur la réglementation et de la loi nationale et du décret qui a été mis en place par la ville et de l'extinction de l'éclairage public.
D'accord.
Donc il y a vraiment une série de questions. Qui sont vraiment précises, et notre travail maintenant ça va être de voir si c'est appliqué par la nouvelle équipe.
Voilà, en effet, quelle qu'elle soit d'ailleurs.
Alors d'ailleurs pour nous, cette action qui était récente, qui est assez récente à Blois, moi c'est la première fois que je le vois, pour nous à une personne qui sont un peu association nationale, un peu officielle, qui participons à la mise en place des textes au niveau... Nous avons des relations avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. On a des liens avec la LPO, avec l'Association des maires ruraux de France. Enfin, les parcs naturels régionaux, les parcs naturels nationaux.
Est-ce que vous travaillez avec le ministère ?
Voilà. Là, c'était intéressant parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes que des bénévoles. Pour la Loire-et-Cher, nous ne sommes que deux correspondants bénévoles. Donc, un est en activité professionnelle. Pardon. Et cette action de rencontrer les commerçants pour l'extinction des vitrines, ça montrait qu'en se regroupant, on était bien plus actifs et que plein de gens ont participé à cette action qu'on n'aurait jamais pu faire, nous, à NPSN, tout seul. Donc l'utilité de se coordonner et de se parler.
Et ça aussi, l'occasion, du coup, de rencontrer un peu le réseau local, le vivier militant sur les questions
d'environnement. Tout à fait. C'est très, très positif. Donc, comme a dit Benjamin tout à l'heure, eux, ils ont profité de notre expérience et de ce qu'on connaissait sur le plan législatif, réglementation. Et nous, on a profité, j'allais dire, de leur enthousiasme.
D'accord. Et est-ce que, sur cette question-là, vous avez de prochaines étapes, des prochains projets, est-ce que la NPCN va continuer, quelles actions vous allez mener, vous, ensemble ou distinctement sur la question de la pollution lumineuse ?
Alors, ensemble, je ne sais pas, distinctement, on va continuer à s'occuper du concours Ville et Village étoilé, qui est ouvert depuis le mois de novembre 2019. Les inscriptions vont s'arrêter le 30 avril. Alors, à cause des élections, on va peut-être retarder peut-être, c'est en discussion, les inscriptions, parce que les communes sont très occupées avec les élections. Ça demande un certain investissement, c'est un questionnaire assez lourd, assez complet. Donc pour ça, il faut qu'il y ait des gens qui s'en occupent. Voilà, ça c'est l'action au niveau, nous, proprement, à NPCN. Pour le reste, je ne sais pas, sur le plan collectif, je pense que ça va se décider après les élections.
Ouais, notre premier travail, conjointement, ça va déjà être de laisser le temps à l'équipe de s'installer, l'équipe municipale, et après de leur rappeler leurs engagements qu'ils ont écrits, signés sur ces questions-là. Nous, du côté d'Extinction Rébellion, on réfléchit et on mène des actions autour de la désobéissance civile. Et nous, on a décidé d'aller plus loin que ça, vers les commerçants. Après une première rencontre...
Oui, en face à face.
Ouais, exactement, face à face.
Cordialement, vous arrivez, vous vous présentez, vous expliquez un petit peu ce pourquoi vous êtes là. Vous avez envie d'aller plus loin.
On est déjà allé plus loin. On est allé retourner voir ces commerçants de nuit. Renoter l'extinction ou pas, savoir l'impact qu'on avait eu, l'impact que notre rencontre elle avait eu. Et là, par exemple, on a pu noter qu'il y avait déjà un tiers des commerçants qui avaient éteint leur lumière. Donc sur 46, il y avait un peu plus de 30 commerçants qui restaient allumés.
D'accord.
Et pour cela, on a décidé d'apposer un sticker sur leur vitrine. Soit on laissait un petit flyer dessous en disant « Merci, vous avez éteint, on a noté votre geste ». Pour ceux qui ne l'avaient pas fait, on a accolé un petit sticker sur leur vitrine qui expliquait notre passage déjà, qui expliquait notre geste, qui on était, qui rappelait qui on était, et qui rappelait les raisons de ce geste-là. On est allé encore plus loin, on a décidé de recouvrir de blanc de meudon les vitrines et les publicités comme les abribus par exemple.
D'accord.
Blanc de meudon, c'est un produit ménager. Quand on le mélange avec l'eau, ça devient tout blanc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vitrines en liquidation par exemple. Il y a tout un produit blanc qui est apposé sur la vitrine et qui fait que ça occulte l'intérieur, on ne voit plus l'intérieur.
D'accord. L'objectif du coup c'est d'obliger en tout cas les passants, les commerçants à voir qu'ils ont encore du travail à faire.
C'est ça, et de sensibiliser aussi la population sur la publicité nocturne qu'on reçoit tout le temps. Et du coup, ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux et sur le site du journal local, là, avec des gens qui étaient soit vraiment pour, beaucoup d'ailleurs, soit vraiment contre et qui se demandaient ce qu'on faisait là. Voilà, donc c'était pour bien rappeler qu'il y avait, nous, dans notre action, il n'y avait aucune détérioration. C'était du blanc de meudon, donc ça s'efface avec un coup d'éponge et d'eau. Il y a une dernière action qu'on a fait en même temps, c'est qu'on est venu éteindre manuellement les enseignes qui étaient allumées.
D'accord. Alors ça, on peut peut-être en parler rapidement. Moi, j'ai vu cette action-là aussi ailleurs en ville. En façade, en devanture, il y a un interrupteur manuel qui, à l'origine, est destiné aux pompiers pour pouvoir entrer dans le magasin ou en tout cas intervenir dans un commerce sans risque électrique, c'est ça ?
Exactement, ouais.
Et donc, du coup, ça, on peut le désactiver manuellement de l'extérieur pour éteindre la vitrine.
Ouais, complètement. Alors non, ça, il éteint ni les vitrines, ni les bureaux. Il éteint simplement l'enseigne, la petite enseigne qui est au-dessus du magasin.
D'accord.
Donc, on n'a pas un pouvoir sur tout. Et l'idée, c'était pas de venir casser la vitrine pour venir éteindre les bureaux, par exemple. C'était juste de signaler notre geste. Donc, ouais, on a éteint cette enseigne. On l'a bien notifié aux commerçants pour qu'ils sachent. Et on a bien rappelé notre geste.
D'accord, oui.
Et puis, parallèlement à ce que dit Benjamin, il y a une chose importante, c'est que au moment de cette action précédente, là, quand on allait rencontrer les commerçants, on a eu des contacts avec la responsable. Je ne sais pas comment ça s'appelle, la responsable des commerçants, mais au niveau du conseil municipal.
D'accord.
Et là, on a beaucoup discuté, et il y a eu une prise de conscience. Et je pense qu'au niveau de la ville, ils ont compris qu'il fallait faire quelque chose. Il ne faut pas laisser ça dans cet état-là. Donc, je crois que les choses vont avancer aussi.
Et justement, la NPCN, par rapport à des actions, on va dire, plus... Alors, moi, je mets des grosses guillemets, hein, mais on va dire plus radicales. Vous êtes vraiment dans le conseil et dans l'accompagnement. Dans des actions, on va dire, de terrain, de désobéissance civile, comment vous vous situez, vous, par rapport à ça ?
Non, je crois qu'on ne se sent pas concerné. Vous prenez ça comme vous voulez. On ne se sent pas concerné. On sait qu'on n'est pas fait pour ça, d'abord... Comme je dis, on n'est que deux. On est correspondant officiel de cette association, donc même si on n'est que des bénévoles. Donc nous, on ne veut pas se lancer dans des actions comme ça, des actions commando. C'est pas notre but.
D'accord. Mais en même temps, vous désavouez pas non plus ce que fait.
Non. Ah non, pas du tout. On désavoue pas. Mais on participe à ça. C'est chacun son domaine. Là, on peut pas.
D'accord.
Après, ce qui est intéressant, c'est de noter que là, l'action qu'on a eue en commune, elle a d'abord nécessité de la réflexion et qu'on agit en complémentarité. Et la NPCN ne pourrait pas faire ce qu'on fait et inversement, on n'aurait pas ni le temps, ni les compétences, ni les savoirs pour aller rencontrer un élu, par exemple, ou parler à un conseiller municipal qui s'occupe du matériel d'éclairage public. Donc ce qui est intéressant, c'est d'aller s'enrichir de l'autre et d'aller agir ensemble sur un problème environnemental commun, quoi.
D'accord. Très bien. Ben, je vous remercie d'être venu. C'était fort intéressant. On a appris beaucoup de choses sur ces deux émissions. J'invite tous les auditeurs qui seraient intéressés par la question de la pollution lumineuse à revenir sur le premier épisode et à retourner sur le site de la radio studiosf.fr. Sur les deux articles de podcast, je mettrai les liens pour contacter le groupe. Vous avez un moyen de communication? Comment est-ce qu'on peut vous contacter d'ailleurs?
On a un Facebook qui s'appelle Extinction Rebellion Blois.
D'accord. Donc je le mettrai en lien dans l'article, comme ça s'il y a des gens qui sont intéressés.
Vous verrez aussi une vidéo de ce passage nocturne.
D'accord. et un lien avec vers le site de l'ANPCEN pour
oui,
en
nous,
savoir plus.
Oui, par nos adresses mail et puis sur le site de l'ANPCEN, le site national, qui est très très documenté et qui donne beaucoup d'informations.
Très bien. Benjamin, Marc, merci.
Merci beaucoup. Merci.
Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet. Je ne sais pas encore. On a le temps on a le temps d'y réfléchir. Mais d'ici là, on continue d'agir pour la chose publique.